Emmanuel Kant, traduction par Jules Barny. Traité de pédagogie, observation tirée d'un cours fait plusieurs fois à l'université sur ce sujet. Introduction. L'homme est la seule créature qui soit susceptible d'éducation. Par éducation, on entend les soins, le traitement, l'entretien que réclame son enfance, la discipline qui le fait homme, enfin, l'instruction avec la culture. Sous ce triple rapport, il est enfant, élève et écolier. Aussitôt que les animaux commencent à sentir leur force, ils les emploient régulièrement, c'est-à-dire d'une manière qui ne leur soit point nuisible à eux-mêmes. Il est curieux, en effet, de voir comment, par exemple, les jeunes hirondelles, à peine sorties de leur œuf et encore aveugles, savent s'arranger de manière à faire tomber leurs excréments hors de leur nid. Les animaux n'ont donc pas besoin d'être soignés, enveloppés, réchauffés et conduits ou protégés. La plupart demandent, il est vrai, de la pâture, mais non des soins. Par soin, il faut entendre les précautions que prennent les parents pour empêcher leurs enfants de faire de leur force un usage nuisible. Si par exemple, un animal en venant au monde criait comme font les enfants, il deviendrait infailliblement la proie des loups et des autres bêtes sauvages qui seraient attirées par ses cris. La discipline nous fait passer de l'état d'animal à celui d'homme. Un animal est, par son instinct même, tout ce qu'il peut être. Une raison étrangère a pris d'avance pour lui tous les soins indispensables. Mais l'homme a besoin de sa propre raison. Il n'a pas d'instinct et il faut qu'il se fasse à lui-même son plan de conduite. Mais comme il n'en est pas immédiatement capable et qu'il arrive dans le monde à l'état sauvage, il a besoin du secours des autres. L'espèce humaine est obligée de tirer peu à peu d'elle-même, par ses propres efforts, toutes les qualités naturelles qui appartiennent à l'humanité. Une génération fait l'éducation de l'autre. On en peut chercher le premier commencement dans un état sauvage ou dans un état parfait de civilisation. Mais dans ce second cas, il faut encore admettre que l'homme est retombé ensuite à l'état sauvage et dans la barbarie. La discipline empêche l'homme de se laisser détourner de sa destination, de l'humanité, par ses penchants brutaux. Il faut, par exemple, qu'elle le modère, afin qu'il ne se jette pas dans le danger comme un farouche ou un étourdi. Mais la discipline est purement négative, car elle se borne à dépouiller l'homme de sa sauvagerie. L'instruction, au contraire, est la partie positive de l'éducation. La sauvagerie est l'indépendance à l'égard de toutes les lois. La discipline soumet l'homme aux lois de l'humanité et commence à lui faire sentir la contrainte des lois. Mais cela doit avoir lieu de bonne heure. Ainsi, par exemple, on envoie d'abord les enfants à l'école, non pour qu'ils y apprennent quelque chose, mais pour qu'ils s'y accoutument à rester tranquillement assis et à observer ponctuellement ce qu'on leur ordonne, afin que, dans la suite, ils sachent tirer à l'instant bon parti de toutes les idées qui leur viendront. Mais l'homme a naturellement un si grand penchant pour la liberté que quand on lui en laisse prendre d'abord une longue habitude, il lui sacrifie tout. C'est précisément pour cela qu'il faut de très bonne heure, comme je l'ai déjà dit, avoir recours à la discipline, car autrement, il serait très difficile de changer ensuite son caractère. Il suivra alors tous ses caprices. On ne voit pas que les sauvages s'accoutument jamais à la manière de vivre des Européens, si longtemps qu'ils restent à leur service. Ce n'est pas chez eux, comme Rousseau et d'autres le pensent, l'effet d'un noble penchant pour la liberté, mais une certaine rudesse qui vient de ce qu'ici, l'homme ne s'est pas encore, en quelque sorte, dégagé de l'animal. Nous devons donc nous accoutumer de bonne heure à nous soumettre aux préceptes de la raison. Quand on a laissé l'homme faire toutes ses volontés pendant sa jeunesse, et qu'on ne lui a jamais résisté en rien, il conserve une certaine sauvagerie pendant toute la durée de sa vie. Il ne lui sert de rien d'être ménagé pendant sa jeunesse par une tendresse maternelle exagérée, car plus tard, il n'en rencontrera que plus d'obstacles de toutes parts. Et il recevra partout des échecs lorsqu'il s'engagera dans les affaires du monde. C'est une faute où l'on tombe ordinairement dans l'éducation des grands que de ne jamais leur opposer de véritables résistances dans leur jeunesse, sous prétexte qu'ils sont destinés à commander. Chez l'homme, le penchant pour la liberté fait qu'il est nécessaire de polir sa rudesse. Chez l'animal, au contraire, l'instinct dispense de cette nécessité. L'homme a besoin de soins et de culture. La culture comprend la discipline et l'instruction. Aucun animal, que nous sachions, n'a besoin de la dernière, car aucun n'apprend quelque chose de ceux qui sont plus âgés, excepté les oiseaux qui apprennent leur chant. Les oiseaux, en effet, sont instruits en cela par leurs parents, et c'est une chose touchante de voir, comme dans une école, les parents chanter de toute leur force avant leurs petits, et ceux-ci s'efforcer de tirer les mêmes sons de leur jeune gosier. Si l'on veut se convaincre que les oiseaux ne chantent pas par instinct, mais apprennent réellement à chanter, il y a un moyen décisif. C'est d'enlever à des serins la moitié de leurs œufs et d'y substituer des œufs de moineaux, ou encore de mêler avec leurs petits des moineaux tout jeunes. Qu'on les mette dans une cage d'où ils ne puissent entendre les moineaux du dehors. Ils apprendront le chant des serins et l'on aura ainsi des moineaux chantants. Il est dans le fait très étonnant que chaque espèce d'oiseau conserve à travers toutes les générations un certain chant principal. La tradition du chant est bien la plus fidèle qui soit au monde. L'homme ne peut devenir homme que par l'éducation. Il n'est que ce qu'elle le fait. Il est à remarquer qu'il ne peut recevoir cette éducation que d'autres hommes qu'il ait également reçus. Aussi, le manque de discipline et d'instruction chez quelques hommes en fait-il de très mauvais maîtres pour leurs élèves. Si un être d'une nature supérieure se chargeait de notre éducation, on verrait alors ce qu'on peut faire de nous. Mais comme l'éducation, d'une part, apprend quelque chose aux hommes, et d'autre part, ne fait que développer en eux certaines qualités, il est impossible de savoir jusqu'où vont nos dispositions naturelles. Si du moins on en faisait une expérience avec l'assistance des grands et en réunissant les forces de plusieurs, cela nous éclairerait déjà sur la question de savoir jusqu'où l'homme peut aller dans cette voie. Mais c'est une chose aussi digne de remarque pour un esprit spéculatif que triste pour un ami de l'humanité de voir la plupart des grands ne jamais songer qu'à eux et ne prendre aucune part aux importantes expériences que l'on peut pratiquer sur l'éducation afin de faire à la nature un pas de plus vers la perfection. Il n'y a personne qui, ayant été négligé dans sa jeunesse, ne soit capable d'apercevoir dans l'âge mûr en quoi il a été négligé, soit dans la discipline, soit dans la culture, car on peut nommer ainsi l'instruction. Celui qui n'est point cultivé est brute, celui qui n'est pas discipliné est sauvage. Le manque de discipline est un pire mal que le défaut de culture, car celui-ci peut se réparer plus tard, tandis qu'on ne peut plus chasser la sauvagerie et corriger un défaut de discipline. Peut-être l'éducation deviendra-t-elle toujours meilleure, et chacune des générations qui se succéderont fera-t-elle un pas de plus vers le perfectionnement de l'humanité. car c'est dans le problème de l'éducation que gît le grand secret de la perfection de la nature humaine. On peut marcher désormais dans cette voie, car on commence aujourd'hui à juger exactement et à apercevoir clairement ce qui constitue proprement une bonne éducation. Il est doux de penser que la nature humaine sera toujours mieux développée par l'éducation et que l'on peut arriver à lui donner la forme qui lui convient par excellence. Cela nous découvre la perspective du bonheur futur de l'espèce humaine. L'esquisse d'une théorie de l'éducation est un noble idéal et qui ne nuirait en rien, quand même nous ne serions pas en état de le réaliser. Il ne faut pas regarder une idée comme chimérique et la donner pour un beau rêve parce que des obstacles en arrêtent la réalisation. Un idéal n'est autre chose que la conception d'une perfection qui ne s'est pas encore rencontrée dans l'expérience. Telle est, par exemple, l'idée d'une république parfaite, gouvernée d'après les règles de la justice. Est-elle pour cela impossible? Seulement, il faut d'abord que notre idée ne soit pas fausse, et ensuite qu'il ne soit pas absolument impossible de vaincre tous les obstacles qui peuvent s'opposer à son exécution. Si, par exemple, tout le monde mentait, la franchise serait-elle pour cela une pure chimère? L'idée d'une éducation qui développe dans l'homme toutes ses dispositions naturelles est vraie absolument. Avec l'éducation actuelle, les hommes n'atteignent pas du tout le but de leur existence, car quelle diversité n'y a-t-il pas dans leur manière de vivre? Il ne peut y avoir d'uniformité parmi eux qu'autant qu'ils agissent d'après les mêmes principes et que ces principes deviennent pour eux comme une seconde nature. Nous pouvons, du moins, travailler au plan d'une éducation conforme au but qu'on doit se proposer et laisser à la postérité des instructions qu'elle pourra réaliser peu à peu. Voyez, par exemple, les oreilles d'ours. Quand on les tire du pied même de la plante, elles ont toutes la même couleur. Quand au contraire, on en sème la graine, on obtient des couleurs toutes différentes et les plus variées. La nature a donc mis en elle certains germes, et il suffit pour les y développer de semer et de planter convenablement ses fleurs. Il en est de même chez l'homme. Il y a beaucoup de germes dans l'humanité, et c'est à nous de développer proportionnellement nos dispositions naturelles, à donner à l'humanité tout son déploiement et à faire en sorte que nous remplissions notre destination. Les animaux remplissent la leur spontanément et sans la connaître. L'homme, au contraire, est obligé de chercher à atteindre la sienne, et il ne peut le faire qu'autant qu'il en a une idée. L'accomplissement de cette destination est même entièrement impossible pour l'individu. Si l'on admet un premier couple réellement cultivé, il faut encore savoir comment il a formé ses élèves. Les premiers parents donnent à leurs enfants un premier exemple. Ceux-ci l'imitent et ainsi se développent quelques dispositions naturelles. Mais toutes ne peuvent être cultivées de cette manière, car la plupart du temps, les exemples ne s'offrent aux enfants que par occasion. Les hommes n'avaient autrefois aucune idée de la perfection dont la nature humaine est capable. Nous-mêmes, nous ne la possédons pas encore dans toute sa pureté. Aussi bien est-il nécessaire que tous les efforts individuels qui ont pour but la culture de nos élèves ne pourront jamais faire que ceux-ci viennent à remplir leur destination. Ce ne sont pas les individus, mais l'espèce seule qui peut arriver à ce but. L'éducation est un art dont la pratique a besoin d'être perfectionnée par plusieurs générations. Chaque génération, munie des connaissances des précédentes, est toujours plus en mesure d'arriver à une éducation qui développe dans une juste proportion et conformément à leur but toutes nos dispositions naturelles et qui conduisent ainsi toute l'espèce humaine à sa destination. La Providence a voulu que l'homme tirait le bien de lui-même et elle lui dit en quelque sorte « Entre dans le monde, j'ai mis en toi toutes sortes de dispositions pour le bien. C'est à toi qu'il appartient de les développer et ainsi ton bonheur ou ton malheur dépend de toi. » C'est ainsi que le Créateur pourrait parler aux hommes. L'homme doit d'abord développer ses dispositions pour le bien. La Providence ne les a pas mises en lui toutes formées. Ce sont de simples dispositions et il n'y a pas encore là de distinction de moralité. Se rendre soi-même meilleur, se cultiver soi-même et, si l'on est mauvais, développer en soi la moralité, voilà le devoir de l'homme. Quand on y réfléchit mûrement, on voit combien cela est difficile. L'éducation est donc le problème le plus grand et le plus ardu qui nous puisse être proposé. Les Lumières, en effet, dépendent de l'éducation et à son tour, l'éducation dépend des Lumières. Aussi, ne saurait-elle marcher en avant que pas à pas et ne peut-on arriver à s'en faire une idée exacte que parce que chaque génération transmet ses expériences et ses connaissances à la suivante, qui y ajoute à son tour et les lègue ainsi augmentées à celles qui lui succèdent. Quelle culture et quelle expérience ne supposent donc pas cette idée? C'est pourquoi elle ne pouvait paraître que fort tard, et nous-mêmes ne l'avons pas encore élevée à son plus haut degré de pureté. La question est de savoir si l'éducation dans l'individu doit imiter la culture que l'humanité en général reçoit de ses diverses générations. Il y a deux choses dont on peut regarder la découverte comme la plus difficile pour l'humanité, l'art de gouverner les hommes et celui de les élever. Et pourtant, on dispute encore sur ces idées. Or, par où commencerons-nous à développer les dispositions de l'homme? Faut-il partir de l'état barbare ou d'un état déjà cultivé? Il est difficile de concevoir un développement prenant son point de départ dans la barbarie. Aussi est-il temps de se faire une idée du premier homme. Et nous voyons que, toutes les fois que l'on est parti de cet état, on n'a jamais manqué d'y retomber et qu'il a toujours fallu faire de nouveaux efforts pour en sortir. Aussi, chez des peuples très civilisés, retrouvons-nous le voisinage de la barbarie attesté par les plus anciens monuments écrits qu'il nous est laissés. Et quel degré de culture l'écriture ne suppose-t-elle pas déjà? C'est à ce point que l'on pourrait, au point de vue de la civilisation, faire dater de l'art d'écrire le commencement du monde. Comme nos dispositions naturelles ne se dépensent pas d'elles-mêmes, toute éducation est un art. La nature ne nous a donné pour cela aucun instinct. L'origine ainsi que la marche de cet art est ou mécanique, sans plan, soumise aux circonstances données, ou raisonnée. L'art de l'éducation ne résulte pas mécaniquement des circonstances où nous apprenons par expérience si une certaine chose nous est nuisible ou utile. Tout art de ce genre, qui serait purement mécanique, contiendrait beaucoup d'erreurs et de lacunes parce qu'il ne suivrait aucun plan. Il faut donc que l'art de l'éducation, que la pédagogie soit raisonnée pour que la nature humaine puisse se développer de manière à remplir sa destination. Les parents qui ont eux-mêmes reçu une certaine éducation sont déjà des modèles sur lesquels se règlent les enfants. Mais pour rendre ceci meilleur, il est nécessaire de faire de la pédagogie une étude. Autrement, il n'y a rien à en espérer. Et l'éducation est confiée à des hommes d'une mauvaise éducation. Il faut, dans l'art de l'éducation, substituer la science au mécanisme, sans quoi elle ne sera jamais un effort continu. Et une génération pourrait bien renverser ce qu'une autre aurait bâti. Un principe de pédagogie que devraient surtout avoir devant les yeux les hommes qui font des plans d'éducation, c'est qu'on ne doit pas élever les enfants d'après l'état présent de l'espèce humaine, mais d'après un état meilleur possible dans l'avenir, c'est-à-dire d'après l'idée de l'humanité et de son entière destination. Ce principe est d'une grande importance. Les parents n'élèvent ordinairement leurs enfants qu'en vue du monde actuel, si corrompu qu'il soit. Ils devraient, au contraire, leur donner une éducation meilleure, afin qu'un meilleur état en puisse sortir dans l'avenir. Mais deux obstacles se rencontrent ici. Premièrement, les parents n'ont ordinairement souci que d'une chose, c'est que leurs enfants fassent bien leur chemin dans le monde. Et deuxièmement, les princes ne considèrent leurs sujets que comme des instruments pour leur dessein. Les parents songent à la maison et les princes à l'état. Les uns et les autres ne se proposent pas pour but dernier le bien général et la perfection à laquelle l'humanité est destinée. Les bases d'un plan d'éducation doivent avoir un caractère cosmopolitique. Mais le bien général est-il une idée qui puisse être nuisible à notre bien particulier? Nullement, car quoi qu'il semble qu'il lui faille faire des sacrifices, on n'en travaille que mieux au bien de son état présent. Et alors que de nobles conséquences ne s'ensuivent pas, une bonne éducation est précisément la source de tout bien dans le monde. Les germes qui sont dans l'homme doivent toujours se développer davantage, car il n'y a pas dans les dispositions naturelles de l'homme de principe du mal. La seule cause du mal, c'est qu'on ne ramène pas la nature à des règles. Il n'y a dans l'homme de germes que pour le bien. De qui doit-on attendre l'amélioration de l'état du monde? Des princes ou des sujets? Faut-il que ceux-ci s'améliorent d'abord eux-mêmes et fassent la moitié du chemin au-devant des bons gouvernements? Que si cette amélioration doit venir des princes, que l'on commence donc par rendre leur éducation meilleure. Car on a trop longtemps commis cette faute grave de ne jamais leur résister pendant leur jeunesse. Un arbre qui pousse isolé au milieu d'un champ perd sa rectitude en croissant et étend ses branches au loin. Au contraire, celui qui croît au milieu d'une forêt se conserve droit à cause de la résistance que lui opposent les arbres voisins. Et il cherche au-dessus de lui l'air et le soleil. Il en est de même des princes. Mais il vaut encore mieux qu'ils soient élevés par quelqu'un de leurs sujets que par leurs égaux. On ne peut attendre le bien d'en haut qu'autant que l'éducation y sera la meilleure. Il faut donc compter ici plutôt sur les efforts des particuliers que sur le concours des princes, comme l'ont pensé Bazdeau et d'autres. Car l'expérience nous enseigne que ces derniers ont moins en vue dans l'éducation le bien du monde que celui de leur état, et n'y voient qu'un moyen d'arriver à leur fin. S'ils donnent de l'argent pour cet objet, ils se réservent le droit de tracer le plan qui leur convient. Il en est de même pour tout ce qui concerne la culture de l'esprit humain et le développement des connaissances humaines. Le pouvoir et l'argent ne les procurent pas, ils les facilitent tout au plus. Mais ils pourraient les procurer si l'État ne prélevait les impôts uniquement dans l'intérêt de sa caisse. Aussi, les académies ne l'ont-elles pas fait jusqu'ici, et il y a aujourd'hui moins d'apparence que jamais qu'elles commencent à le faire. C'est pourquoi la direction des écoles ne devrait dépendre que du jugement des connaisseurs les plus éclairés. Toute culture commence par les particuliers et part de là pour s'étendre. La nature humaine ne peut se rapprocher peu à peu de sa fin que grâce aux efforts des personnes qui sont douées de sentiments assez étendus pour prendre intérêt au bien du monde et qui sont capables de concevoir un état meilleur comme possible dans l'avenir. Cependant, plus d'un grand ne considère son peuple en quelque sorte que comme une partie du règne animal et n'a autre chose en vue que sa propagation. Tout au plus lui désire-t-il une certaine habileté, mais uniquement pour pouvoir faire de ses sujets des instruments mieux appropriés à ses desseins. Les particuliers doivent aussi, sans doute, avoir d'abord devant les yeux le but de la nature physique, mais ils doivent songer surtout au développement de l'humanité et veiller à ce qu'elle ne devienne pas seulement plus habile, mais aussi plus morale, et ce qui est le plus difficile, à ce que la postérité puisse aller plus loin qu'ils ne sont allés eux-mêmes. L'éducation doit donc, premièrement, discipliner les hommes. Les discipliner, c'est chercher à empêcher que ce qu'il y a d'animal en eux n'étouffe ce qu'il y a d'humain aussi bien dans l'homme individuel que dans l'homme social. La discipline consiste donc simplement à les dépouiller de leur sauvagerie. Deuxièmement, elle doit les cultiver. La culture comprend l'instruction et les divers enseignements. C'est elle qui donne l'habileté. Celle-ci est la possession d'une aptitude suffisante pour toutes les fins qu'on peut avoir à se proposer. Elle ne détermine donc elle-même aucune fin, mais elle laisse ce soin aux circonstances. Certains arts sont bons dans tous les cas, par exemple ceux de lire et d'écrire. D'autres ne le sont que relativement à quelques fins, comme celui de la musique, qui fait aimer celui qui le possède. L'habileté est en sorte infinie à cause de la multitude des fins qu'on peut se proposer. Troisièmement, il faut aussi veiller à ce que l'homme acquiert la prudence, à ce qu'il sache vivre dans la société de ses semblables de manière à se faire aimer et à avoir de l'influence. C'est ici que se place cette espèce de culture qu'on appelle la civilisation. Elle exige certaines manières, de la politesse et cette prudence qui fait qu'on peut se servir de tous les hommes pour ses propres fins. Elle se règle sur le goût changeant de chaque siècle. Ainsi, l'on aimait encore il y a quelques années les cérémonies en société. Quatrièmement, on doit enfin veiller à la moralisation. Il ne suffit pas, en effet, que l'homme soit propre à toutes sortes de fins. Il faut encore qu'il sache se faire une maxime de n'en choisir que de bonnes. Les bonnes fins sont celles qui sont nécessairement approuvées par chacun et qui peuvent être en même temps des fins pour chacun. Sommaire. Qu'on néglige trop l'éducation morale. De l'expérience en matière d'éducation. On peut ou bien dresser, façonner, instruire l'homme d'une manière toute mécanique, ou bien l'éclairer véritablement. On dresse des chevaux, des chiens, et l'on peut aussi dresser des hommes. Il ne suffit pas de dresser les enfants. Il importe surtout qu'ils apprennent à penser. Il faut avoir en vue les principes d'où dérivent toutes les actions. On voit donc combien de choses exigent une véritable éducation. Mais dans l'éducation privée, la quatrième condition qui est la plus importante est ordinairement assez négligée. Car on enseigne aux enfants ce que l'on regarde comme essentiel et l'on abandonne au prédicateur la moralisation. Cependant, combien n'est-il pas important d'apprendre aux enfants à haïr le vice, et non pas pour cette seule raison que Dieu l'a défendu, mais parce qu'il est méprisable par lui-même. Autrement, il s'y laisse aisément entraîner en pensant que cela pourrait bien être permis si Dieu ne l'avait pas défendu, et qu'il peut bien faire une exception en leur faveur. Dieu, qui est l'être saint par excellence, ne veut que ce qui est bon. Il veut que nous pratiquions la vertu à cause d'elle-même et non parce qu'il l'exige. Nous vivons dans une époque de discipline, de culture et de civilisation, mais qui n'est pas encore celle de la moralisation. Dans l'état actuel des choses, on peut dire que le bonheur des États croît en même temps que le malheur des hommes. Et c'est encore une question de savoir si nous ne serions pas plus heureux dans l'état barbare où toute la culture qui est chez nous n'existe pas que dans notre état actuel. Car comment peut-on rendre les hommes heureux si on ne les rend moraux et sages? La quantité du mal n'en sera pas diminuée. Il faut d'abord instituer des écoles expérimentales avant de pouvoir en fonder de normales. L'éducation et l'instruction ne doivent pas être purement mécaniques, mais reposer sur des principes. Pourtant, elles ne doivent pas être non plus une affaire de pur raisonnement, mais aussi en un certain sens un mécanisme. Il n'y a guère en Autriche que des écoles normales, établies sur un plan contre lequel on a élevé avec raison beaucoup d'objections, et auquel on pourrait surtout reprocher de n'être qu'un mécanisme aveugle. Toutes les autres écoles devaient se régler sur celle-là, et l'on se refusait même à employer les gens qui n'avaient pas été dans ces écoles. De telles prescriptions montrent combien le gouvernement se mêle de ces choses, et il est impossible qu'avec une pareille contrainte, on puisse arriver à quelque chose de bon. On se figure ordinairement qu'il n'est pas nécessaire de faire des expériences en matière d'éducation, et que l'on peut juger par la raison seule si une chose sera bonne ou non. Mais on se trompe beaucoup en cela, et l'expérience enseigne que nos tentatives ont souvent amené des effets tout opposés à ceux que l'on attendait. On voit donc que l'expérience étant ici nécessaire, nulle génération d'hommes ne peut tracer un plan d'éducation complet. La seule école expérimentale qui ait commencé ici en quelque sorte à frayer la route a été l'Institut de Dessau. Malgré les nombreux défauts qu'on pourrait lui reprocher, mais qui se rencontrent dans tous les essais auxquels on se livre, il faut lui accorder cette gloire qu'il n'a pas cessé de susciter de nouvelles tentatives. Il a été, d'une certaine manière, la seule école où les maîtres eussent la liberté de travailler d'après leurs propres méthodes et leurs propres plans, et où ils fussent unis entre eux, ainsi qu'avec tous les savants de l'Allemagne. Sommaire. De la culture négative et positive, de l'éducation privée et publique, combien de temps doit durer l'éducation, de la soumission, comment concilier la soumission et la liberté. L'éducation comprend les soins qu'exige l'enfance et la culture. Celle-ci est premièrement négative. C'est d'abord la discipline laquelle se borne à empêcher les fautes, Deuxièmement, positive, c'est l'instruction et la direction. Et sous ce rapport, elle mérite bien le nom de culture. La direction est ce qui sert de guide dans la pratique de ce que l'on veut apprendre. D'où la différence entre le précepteur, lequel est simplement un professeur, et le gouverneur, qui est un directeur. Le premier donne uniquement l'éducation de l'école, le second celle de la vie. La première époque chez l'élève est celle où il doit montrer de la soumission et une obéissance passive. La seconde, celle où on lui laisse déjà faire usage de sa réflexion et de sa liberté, mais à la condition qu'il les soumette à des lois. Dans la première, il y a contrainte mécanique. Dans la seconde, contrainte morale. L'éducation est ou privée ou publique. La dernière ne se rapporte qu'à l'enseignement et celui-ci peut toujours rester public. La pratique des préceptes est laissée à la première. Une éducation publique complète est celle qui réunit les deux choses, l'instruction et la culture morale. Son but est de provoquer une bonne éducation privée. Une école où cela se pratique s'appelle un institut d'éducation. Il ne peut y avoir beaucoup d'instituts de ce genre et il ne saurait admettre un bien grand nombre d'élèves, car ils sont très coûteux et leur seul établissement demande déjà beaucoup d'argent. Il en est de ces instituts comme des arsenaux et des hôpitaux. Les édifices qu'ils exigent et le traitement des directeurs, des surveillants et des domestiques prennent déjà la moitié de l'argent destiné à cet usage. Et il est prouvé que si l'on remettait cet argent aux pauvres dans leur maison, ils seraient beaucoup mieux soignés. Il est difficile aussi d'obtenir des riches qu'ils envoient leurs enfants dans ces instituts. Le but de ces instituts est le perfectionnement de l'éducation domestique. Si les parents ou ceux qui leur viennent en aide dans l'éducation de leurs enfants avaient reçu eux-mêmes une bonne éducation, la dépense des instituts publics pourrait n'être plus nécessaire. C'est là qu'on doit faire des essais et former des sujets, et c'est de là que pourra sortir ensuite une bonne éducation domestique. L'éducation privée est donnée ou par les parents eux-mêmes, ou quand par hasard ceux-ci n'en ont pas le temps, la capacité ou le goût, par d'autres personnes qui leur servent d'auxiliaires moyennant une rétribution. Mais cette éducation donnée ainsi par des auxiliaires présente ce très grave inconvénient que l'autorité s'y trouve partagée entre les parents et les maîtres. L'enfant doit se conduire d'après les préceptes de ses maîtres, et il faut aussi qu'il suive les caprices de ses parents. Dans une éducation de ce genre, il est nécessaire que les parents abandonnent toute leur autorité au maître. Mais jusqu'à quel point l'éducation privée est-elle préférable à l'éducation publique, ou la seconde à la première? En général, l'éducation publique semble plus avantageuse que l'éducation domestique, non seulement sous le rapport de l'habileté, mais aussi sous celui du vrai caractère d'un citoyen. L'éducation domestique, loin de corriger les défauts de famille, les augmente. Combien de temps doit durer l'éducation? Jusqu'à l'époque où la nature même a voulu que l'homme se conduise lui-même, où se développe en lui l'instinct du sexe, où il peut lui-même devenir père et être chargé à son tour d'une éducation à faire, c'est-à-dire environ jusqu'à la 16e année. Après cette époque, on peut bien encore avoir recours à des maîtres qui continuent de le cultiver et le soumettre à une discipline secrète. Mais il n'y a plus d'éducation régulière à lui donner. La soumission de l'élève est ou positive. En ce sens, il doit faire ce qui lui est prescrit puisqu'il ne peut juger par lui-même et que la faculté d'imitation existe encore en lui. ou négative, en ce sens qu'il doit faire ce que désirent les autres s'il veut qu'à leur tour, ceux-ci fassent quelque chose pour lui plaire. Il est exposé dans le premier cas à être puni, dans le second à ne pas obtenir ce qu'il désire. Il est ici, bien qu'il puisse déjà penser, sous la dépendance de son plaisir. Un des plus grands problèmes de l'éducation est de concilier, sous une contrainte légitime, la soumission avec la faculté de se servir de sa liberté, car la contrainte est nécessaire. Mais comment cultiver la liberté par la contrainte? Il faut que j'accoutume mon élève à souffrir que sa liberté soit soumise à une contrainte et qu'en même temps, je l'instruise à en faire lui-même un bon usage. Sans cela, il n'y aurait en lui que pur mécanisme. L'homme privé d'éducation ne sait pas se servir de sa liberté. Il est nécessaire qu'il sente de bonne heure la résistance inévitable de la société, afin d'apprendre combien il est difficile de se suffire à soi-même, de supporter les privations et d'acquérir de quoi se rendre indépendant. On doit observer ici les règles suivantes. Premièrement, il faut laisser l'enfant libre dès sa première enfance et dans tous les moments, excepté dans les circonstances où il peut se nuire à lui-même, comme par exemple s'il vient à saisir un instrument tranchant. Mais à la condition qu'il ne fasse pas lui-même obstacle à la liberté d'autrui, comme par exemple quand il crie, ou que sa gaieté se manifeste d'une manière trop bruyante et qu'il incommode les autres. Deuxièmement, on doit lui montrer qu'il ne peut arriver à ses fins qu'à la condition de laisser les autres arriver aussi aux leurs. Par exemple, qu'on ne fera rien d'agréable pour lui s'il ne fait pas lui-même ce que l'on désire, qu'il faut qu'il s'instruise, etc. Troisièmement, il faut lui prouver que la contrainte qu'on lui impose a pour but de lui apprendre à faire usage de sa propre liberté, qu'on le cultive afin qu'il puisse un jour être libre, c'est-à-dire se passer du secours d'autrui. Ce dernier point est le plus tardif à frapper l'esprit des enfants. Ils ne font que très tard cette réflexion, qu'ils auront par exemple un jour à s'occuper eux-mêmes de leur entretien. Ils pensent qu'il en sera toujours comme dans la maison de leurs parents, où on leur donne à manger et à boire sans qu'ils aient à s'en occuper. Or, sans cette idée, les enfants, surtout ceux des riches et les fils des princes, restent toute leur vie des enfants, comme les habitants d'Otaïti. L'éducation publique a ici évidemment les plus grands avantages. On y apprend à connaître la mesure de ses forces et les limites que nous impose le droit d'autrui. On n'y jouit d'aucun privilège, car on y sent partout la résistance et l'on ne peut s'y faire remarquer que par son mérite. Cette éducation est la meilleure image de la vie du citoyen.